et bienvenue dans La Voix Libre, l'émission de l'association Picassoft, une association compiénoise d'éducation populaire qui héberge des services alternatifs et libres et qui organise des formations et des actions de sensibilisation sur les enjeux du numérique et de la culture libre. Je suis Audrey Guilloux et je suis en studio avec notre invité Xavier Guchet. Bonjour Xavier.
Bonjour Audrey.
Et je suis aussi avec Stéphane Croza, toujours aux commandes de la préparation et de l'animation de cette troisième et ultime émission de notre série spéciale Philosophie des techniques. Bonjour Stéphane.
Bonjour Audrey.
Alors cette trilogie est consacrée, on vous l'a dit lors des deux précédentes émissions, à l'ouvrage « Du soin dans la technique, questions philosophiques » de Xavier Guchet, professeur de philosophie et d'éthique des techniques à l'UTC. Alors on a commencé à explorer ce livre « Du soin dans la technique » paru en janvier 2022 aux éditions ISTE lors de deux premières émissions que vous pourrez retrouver sur podcast.picassoft.net. Alors pour essayer de résumer rapidement la première et la seconde partie, on a vu dans une première partie les concepts fondamentaux structurants de l'ouvrage de Xavier. Et puis lors de la seconde partie, on a essayé de faire les liens justement entre ces concepts et puis la formation, le métier, le rôle des ingénieurs. Et donc on a essayé notamment de voir comment eh bien, les ingénieurs pouvaient essayer de rendre visible ce qui est effacé, ce qui est rendu invisible par la technique, essayer de déplier les plis qui existent entre les temporalités, les acteurs, les espaces qui sont faits autour de la technique, par la technique, rendre visibles les rapports de pouvoir et de domination que la technique matérialise. Et pour cela, voilà, on a essayé de comprendre, on a compris avec Xavier, notamment cette notion de carré du soin, des principes à finalité pratique à destination des ingénieurs pour essayer de réarticuler la technique et le soin. Quelques axes méthodologiques pour essayer d'aménager les méthodes de conception. Et je donne la parole à Stéphane pour continuer sur cette troisième partie.
Alors dans cette troisième partie, en fait, c'est un peu une sorte de piège, hein, Xavier. J'ai voulu profiter de ta présence pour nous aider à bricoler, à travailler nos propres les concepts qu'on manipule et qu'on esquisse dans le cadre de la formation donc l'eau technicisation et numérique. Donc comme Audrey l'a dit. Qu'on déploie avec l'UTC et puis aussi en parallèle avec Framasoft dans un cadre université populaire avec une session en ce moment même. Je te propose qu'on aille explorer comme ça quelques concepts, évidemment sans toi libre de botter en touche quand tu le souhaites. Première question, celle de la low technicisation versus le technosolutionnisme. C'est comme ça qu'on positionne en fait le concept au départ, hein, en proposant donc la low technicisation soit une alternative au technosolutionnisme. Alors peut-être qu'une façon d'illustrer ça, c'est de j'ai repris ton exemple du foie résistant au gin, donc qui a été imaginé par un physicien Ettinger, si je prononce bien, dans les années 60. Pour moi, c'est un parfait exemple de solutionnisme, c'est-à-dire qu'on a effectivement un problème, le foie qui se dégrade suite à l'absorption bien trop importante d'alcool. Tu nous montres à travers cet exemple, je te laisserai le redérouler, mais que bien on va trouver une solution, enfin on va chercher une solution, je crois pas que ça a été implémenté, mais la personne va chercher une solution, c'est-à-dire après tout essayer de, alors on pourrait imaginer des médicaments, peut-être de la manipulation génétique, enfin encore une fois on peut ouvrir tout le champ de l'ingénierie pour trouver une solution à cette absorption trop importante de gènes, mais évidemment du coup, en faisant ça, eh bien, on ne remet pas en cause le statut initial qui est effectivement le fait qu'on absorbe trop d'alcool. Alors côté low technicisation, c'est un peu ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire en quelque sorte plutôt que de systématiquement rajouter des techniques qui vont eux-mêmes chercher à résoudre des problèmes techniques, mais donc comme on l'a vu nécessairement via l'incertitude, la complexité générer de nouvelles choses. Eh bien, à certains moments, peut-être que le travail de l'ingénieur peut aussi être de s'arrêter et de regarder et puis de décider. Peut-être, alors je crois que c'est une expression que j'avais notée pour plus tard, mais je vais la donner maintenant. Peut-être de ne pas faire, un peu comme en médecine, il y a un d'abord ne pas nuire. Peut-être qu'il y aurait un d'abord ne pas faire, ou en tout cas bien réfléchir à ce que l'on fait. Donc je sais pas si ça t'inspire un peu des choses, et peut-être que ça peut être une façon de réduire la course en avant de la technique. Donc encore une fois, hein, comme on l'a vu, il s'agit pas ici d'envisager d'arrêter la technique ou de retourner en arrière, mais peut-être qu'à un moment on peut se questionner sur la course en avant de la technique.
Bon, merci Stéphane du cadeau que tu me fais avec cette question qui est plusieurs questions en fait. Donc je repartirai peut-être pour commencer de de l'exemple que effectivement je donne dans le livre et que tu viens d'évoquer du foie rendu tolérant au gin par des techniques de génie génétique d'ingénierie tissulaire. Alors effectivement c'est un exemple spéculatif hein, qui a été qu'on trouve dans le livre d'un scientifique Ettinger des années 60 hein, c'est dans un livre des années 60 à une époque où les techniques d'ingénierie tissulaire de génie génétique sont encore très limitées et donc c'est bien sûr un exemple qui est resté purement spéculatif. Mais qu'est-ce qu'il nous dit cet exemple? Donc l'idée encore une fois c'est grâce à ces nouvelles technologies on pourrait rendre un foie résistant aux alcools donc aux gin, mais enfin aux alcools en général, de façon à immuniser les individus du risque de cirrhose, de toutes les pathologies hépatiques liées à la surconsommation d'alcool. Donc ce qui pourrait paraître une excellente idée. Alors dans quel contexte j'introduis cet exemple? Dans le contexte d'une discussion sur la différence entre deux manières d'envisager alors ce que c'est qu'un organe. Puisqu'il s'agit de transformer, de modifier un organe, mais au-delà de ça, deux manières de considérer la technique. Première manière, qui est celle implicite hein, dans l'approche d'Ettinger, c'est de considérer l'organe comme une partie fonctionnelle d'un tout plus vaste qu'est l'organisme, une pièce de machine. Si on raisonne en termes de machine, ça Descartes nous l'a bien dit, une machine n'est ni bonne ni mauvaise, disons. Il n'y a pas de jugement de valeur, du jugement axiologique à porter sur le fonctionnement d'une machine. Une machine, ça fonctionne toujours. Et donc, il s'agirait ici d'apporter une fonctionnalité nouvelle à un organe qui s'évalue au regard. Alors au regard de quoi? Au regard d'un vivant. C'est-à-dire que le point de vue sur la pièce de machine n'apporte pas un cadre suffisant, n'est pas suffisant pour évaluer l'opération technique en termes de valeur. Il faut un autre point de vue qui est celui de l'usage, qui est celui du pour qui et de pourquoi on transformerait un foie, enfin on le rendrait tolérant aux alcools forts. Donc c'est pas le point de vue sur la pièce de machine, c'est le point de vue sur l'instrument au service d'un vivant. C'est ça qui permet d'apporter des valeurs. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais instrument? Ça a du sens. Et d'ailleurs, Descartes dit exactement la même chose. Je ne vais pas revenir sur Descartes, ce n'est pas l'objet du cours, mais enfin, du cours. J'utilise aussi ces éléments-là en cours, donc, que je vais faire tout à l'heure. Mais on est bien ici dans l'émission, on n'est pas dans le cours. Donc, il y a chez Descartes, bien sûr, cette vision du corps-machine, mais aussi une vision du corps comme un instrument au service d'un vivant, et qu'on peut évaluer, pour le coup, en termes de bon ou de mauvais instrument, alors qu'une bonne ou une mauvaise machine, ça n'a strictement aucun sens pour Descartes. Donc voilà le contexte dans lequel j'amène cet exemple, qui est que, abordé dans les termes stricts de la pièce de machine, on ajoute une fonctionnalité, pourquoi pas? Ça peut paraître tout à fait intéressant d'avoir un foie résistant au gin, on aurait moins de pathologies hépatiques dans les hôpitaux. Si on se place du point de vue de l'instrument, compte tenu du fait que la surconsommation d'alcool produit aussi des désordres métaboliques plus généraux, une désaffection pour la vie sociale, enfin avec des conséquences évidemment psychosociales considérables, on est bien au-delà de la simple pathologie hépatique, et par conséquent ce foie tolérant gin serait un bien mauvais instrument de vie, si on se place du point de vue de l'usage, du point de vue la manière dont cet instrument est un instrument au service du vivant qui s'en sert. Voilà le contexte. Pour aller plus directement à ta question sur le technosolutionnisme et versus l'autechnicisation. En effet, l'une des perspectives très intéressantes ouvertes par l'allotech, contre le technosolutionnisme, c'est de remettre à l'honneur cette perspective instrumentaliste sur la technique. Non pas instrumentaliste au sens de la thèse neutraliste qu'on a déjà abordée dans la première partie de l'émission, à savoir la technique n'est qu'un instrument neutre au service de fin. Parce que là, bien sûr, cette critique qui a été faite de la notion d'instrument neutre, elle est, à mon avis, indépassable, mais elle entend la notion d'instrument au sens, finalement, de ce qui vient après coup comme moyen au service d'une fin préalable. C'est-à-dire que c'est l'instrument en vue d'une fin fixé d'un but extérieur, c'est-à-dire c'est un rapport, on va dire, objectif à une fin. Là, nous parlons d'instruments, non pas au sens de ce qui est un moyen pour une fin, mais au sens de ce qui appartient à un vivant et qui lui permet de déployer toute la gamme de ses possibilités de vie. C'est au sens subjectif de l'instrument. Hein, qu'il s'agit de reconsidérer cette notion d'instrument et pas au sens objectif où là, encore une fois, la critique me semble définitive. Donc si on réinvestit cette notion d'instrument comme instrument du vivant au service de ses capacités, en vue de le rendre plus capacitaire et au regard de quelle valeur, alors là on retrouve précisément des questions qui nous mettent qui nous orientent ailleurs que vers le technosolutionnisme, dont effectivement l'exemple du foie rendu tolérant au gin avec un focus sur la pièce de machine, c'est-à-dire sur l'instrument au sens objectif, en vue d'éviter les pathologies hépatiques, et voilà quel serait le moyen de cette fin. Donc on serait, avec cet exemple, enfermé dans le technosolutionnisme. L'allothèque ouvre avec un redéploiement de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire cet aspect multicouche, hein, de la technique où, eh bien, effectivement, des considérations systémiques de filières d'approvisionnement en matériaux et de dépendance, des éléments plus fonctionnels qui vont nous ramener vers la question des besoins. Telle fonction, mais pour quel besoin et qu'est-ce qu'on met dans la notion de besoin? Et des approches plus écologiques, c'est-à-dire en termes de milieu, et pas simplement milieu naturel, milieu humain, milieu professionnel, des approches plus écologiques. Je pense que la notion de low-tech nous amène précisément à investir cette question de savoir ce que des dispositifs font dans des milieux structurés par des valeurs. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de telle fonctionnalité, de qu'est-ce que le dispositif va faire à certaines pratiques? Est-ce que ça se traduira par la dégradation de certaines valeurs auxquelles les acteurs finalement tiennent énormément et se rendent compte qu'ils y tiennent après coup? Enfin, on va pas revenir sur tout ce qu'on évoquait. Mais je pense, oui, que la low-tech est intéressante pour cet aspect global, plus que pour l'aspect simplement réduire les matériaux. C'est une nouvelle approche de la conception, en fait. Et c'est pour ça que tu le disais très justement. Les ingénieurs sont au cœur du sujet.
Alors là, effectivement, tu insistes sur le premier aspect, hein, en quelque sorte, faire un pas de côté par rapport à la conception, ou en tout cas peut-être une approche parallèle ou orthogonale, enfin peu importe la figure géométrique. Il y a peut-être aussi, je t'emmène sur un second terrain, une question de... je trouve pas forcément le mot, mais de niveau de volume. Allez, je vais le dire comme ça, puisqu'on est à la radio. Que je formalise en opposant médiété et hubris. Donc, je prends des concepts empruntés aux penseurs grecs. Donc, normalement, ça devrait te parler. Mais donc, effectivement, quand on a parlé de besoin, t'avais parlé aussi de Rousseau. Je pense que tu peux peut-être mobiliser là. Mais en tout cas, un des principes qu'on pose dans l'ONUM, c'est qu'il y a un problème d'hubris dans nos sociétés de croissance, c'est-à-dire de démesure et de recherche de démesure, c'est-à-dire pas de démesure subie, mais en quelque sorte de démesure voulue, je le formulerai comme ça. Donc à travers la croissance, peut-être aussi à travers le progrès, ça fait partir des débats qu'on a sur les médias sociaux en ce moment dans le cadre de la formation. Et donc, eh bien, l'idée, ce serait de lui opposer le concept de médiété qu'on trouve chez Aristote. J'utilise aussi parfois celui d'Ataraxie chez Épicure, mais qui chercherait au contraire à essayer de modérer et puis à réfléchir. On va revenir sur le niveau de volume. Alors, une petite question que je m'étais notée à côté, t'es libre de la laisser de côté. J'aurais pu chercher un peu plus, mais j'ai pas trouvé facilement de philosophie de l'hubris finalement. Est-ce qu'il y a vraiment des philosophes qui défendent l'hubris? Peut-être un peu chez Nietzsche, je sais pas si tu as. Enfin voilà, du coup, j'avais l'impression. Peut-être que d'un autre côté, la raison est plutôt finalement du côté de la médiété en général. Et quand on a réfléchi un peu, est-ce qu'on finit toujours un peu là ou est-ce que les deux se défendent?
Un philosophe de l'hubris, je dirais pas ça comme ça, mais on va trouver. Alors là, j'en parle pas comme tel dans le livre, mais sur une lecture que je trouve intéressante de Pierre Caille, une lecture de Heidegger, et qui consiste à dire que pour Heidegger, et là Heidegger est très grec, la technique c'est avant tout une activité créatrice. Elle crée du nouveau dans le monde. Et c'est précisément parce qu'elle est créatrice que pour les Grecs, elle devait être encadrée par des principes limitants. Bon. C'est parce qu'en étant créatrice, évidemment, elle peut perturber, déstabiliser l'ordre du monde. Et pour les Grecs, l'ordre était quand même, pour Platon en particulier, était quand même une valeur fondamentale. Et donc pour Heidegger, l'activité est une activité créatrice. Et le drame, si tu veux, arrive lorsque l'humain entreprend de se rendre maître de cette activité créatrice par sa raison. C'est l'orientation de cette activité par la raison humaine qui la dévoie en quelque sorte. Et donc, c'est comment rendre à... Alors, c'est pas l'hubris, hein, Heidegger mentionne pas ça, enfin, problématise pas ça comme ça, mais comment rendre la technique à sa fonction créatrice ou à sa dimension créatrice sans être parasité, sans être pollué en quelque sorte par le détournement qu'en fait la raison humaine. Ouais. Donc oui, il y a des penseurs qui ont pu penser la technique comme étant une activité créatrice, créatrice de nouveau dans l'être, hein, que l'on peut, pourquoi pas, rattacher à la notion d'hubris, qui de ce fait prendra une coloration moins péjorative, finalement, que celle qu'on lui confère spontanément. Pour les Grecs, elle avait une coloration, me semble-t-il, je ne suis pas un helléniste spécialiste des Grecs, mais me semble-t-il, elle avait une coloration péjorative.
Alors deuxième question liée aussi difficile au moins, est-ce que tu as quelques pistes, est-ce que tu penses qu'on devrait effectivement remettre un petit peu au goût du jour cette notion de, quelle que soit la façon dont on l'appelle, mais de médiété, de contrôle, est-ce que ça fait un peu écho à ce dont on parlait avant sur le fait de mieux réfléchir aux conséquences et d'essayer d'anticiper les conséquences, etc. Est-ce que c'est un truc qu'on devrait mettre un peu plus dans nos formations d'ingénieurs? Est-ce que ça y est déjà? Et est-ce que tu as deux, trois pistes par rapport à ça?
Alors, c'est une question difficile parce que, oui, bien sûr, mais la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par mettre du contrôle. Je reviens un petit peu à ce que j'explique à propos de Platon, qui, partant de cette conception de l'activité technique comme activité créatrice, et identifiant, me semble-t-il, un danger majeur, qui est celui de la déstabilisation, construit une philosophie, alors pas que pour ça, hein, mais construit une philosophie qui va permettre de poser un certain nombre de principes limitants. Le technicien, c'est celui qui donc crée des formes, et si rien ne vient l'encadrer, il peut créer, selon son bon vouloir, toutes sortes de formes et les faire correspondre à toutes sortes de noms, pourquoi pas, enfin, et donc vraiment déstabiliser le monde. Je signale dans le livre au passage que c'est, alors évidemment toute proportion gardée, mais c'est sans doute le diagnostic fait par les nazis à l'égard du Bauhaus dans les années 20 et qui conduira le parti nazi à fermer le Bauhaus dès son arrivée au pouvoir. Le fondateur du Bauhaus disait que le designer, c'est un créateur de formes. C'est assez proche de ce que dit Platon. Donc un créateur de formes. Donc il faut des principes limitants. Mais des principes limitants qui vont être, par exemple, la fameuse philosophie des formes essentielles. Évidemment, si un lit est défini par une forme essentielle, il n'appartient pas à l'artisan d'imposer son bon vouloir à la forme qu'il va imposer à la matière s'il s'agit de faire un lit. Il va se régler sur la forme du lit. Et le bon artisan, pour Platon, c'est celui qui est capable de se régler sur les formes essentielles, sur les modèles idéaux. Il n'y a pas d'activité. L'activité technique n'est pas une activité, en tout cas dans les textes de Platon, une activité valorisée comme une activité inventive. Il s'agit de se caler sur les modèles. Hein, c'est-à-dire d'avoir la connaissance de la raison des choses, de rendre compte de ce que l'on fait par la connaissance de la nature des choses. Et puis il y a d'autres principes limitants. La matière apporte des principes limitants. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des formes implicites. Aristote a énormément insisté sur ce point. L'usage, comme disait Aristote encore, c'est pas l'architecte qui est juge de la maison, c'est celui qui l'habite. Et puis, bien sûr, un aspect fondamental qui est que la technique reste prise dans la vie au travers du concept d'organon. La technique est avant tout organon, c'est-à-dire prolongement du corps. C'est un vivant au travail. Hein. Les possibles de la technique sont enfermés dans les possibles du corps, les possibles mécaniques, moteurs, etc. Pour dire les choses dans un langage qui n'est pas, évidemment pas celui de Platon. Donc, principes limitants, mais qui sont les principes limitants de la technique elle-même. C'est-à-dire que c'est l'activité technique qui est enserrée de l'intérieur même de son effectuation par ces principes limitants. Il n'appartient pas à l'artisan de décider quelle est la forme des choses, de transformer sa biomécanique. Or, quand on parle de contrôle de la technique aujourd'hui, on ne veut pas dire déployer des principes limitants qui sont internes à l'activité technique elle-même, mais appliquer à la technique des régulations qui arrivent de l'extérieur. Parce que précisément, la technique est jugée illimitée en son principe, que ce soit en termes de création de formes. On a vu des domaines comme celui des nanotechnologies vanter justement le fait que le technicien, l'ingénieur, le scientifique dans ce domaine est totalement illimité grâce aux instruments, un certain type d'instrumentation dans sa capacité à créer des formes, à faire à la matière toutes sortes de choses sans limitation. Et bien sûr, ça fait longtemps que l'activité technique humaine est désolidarisée des limitations des possibles du corps. C'est-à-dire que la technique a cessé d'être pensée comme stricto sensu, organon, en tout cas au sens des Grecs. Donc il reste quoi ? Il reste quatrième principe de limitation, c'est ce que j'explique dans le livre, et qui peut expliquer pourquoi, finalement, l'éthique, la finalité, les valeurs, mais à portée de l'extérieur, occupe le devant de la scène quand il s'agit de réfléchir à la technique, effectivement, avec d'un côté une technique ubrique, et puis de l'autre, une régulation qui vient de l'extérieur. Mais penser dans ces termes, c'est très peu grec, en fait. Et je pense que ça correspond très peu à la réalité. Parce que quand on regarde concrètement ce que font les ingénieurs, au fond, les principes limitants, ils y sont confrontés au quotidien. Et ces principes limitants sont des principes qui limitent la technique de l'intérieur même de l'activité technique elle-même. Hein, pour terminer là-dessus, quand on regarde le travail fait en bio-ingénierie ici à l'UTC sur les organes artificiels, et restons sur le foie, la conception d'un foie artificiel... Ma collègue Cécile Le Gallet ne va parler que de contraintes immanentes à l'activité technique. Les cellules meurent quand on les met dans des bioréacteurs les unes après les autres, donc il faut les encapsuler. Limitation qui vient du matériau avec lequel il s'agit de travailler, qui est récalcitrant, dont il faut prendre soin. Limitation impliquée par des règles de bioéthique, mais des règles aussi juridiques, qui fait qu'on ne peut pas valider des dispositifs médicaux n'importe comment. Donc tout ça entre en ligne de compte dans le choix des types cellulaires, ou de l'origine en tout cas des cellules qu'on va utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser des cellules souches de telle ou telle nature pour animal, humaine, pour valider les dispositifs? Bon bref, je ne développe pas davantage, mais enfin... l'ingénieur est confronté, et là pour le coup c'est beaucoup plus proche des Grecs, de ce que disait Platon, à des principes limitants. Donc je ne crois pas du tout, enfin la technique comme hubris me semble, ne me semble pas correspondre à la réalité des pratiques de l'ingénieur, et ça fait très longtemps, que peut-être depuis toujours, que l'ingénierie c'est un art des compromis, c'est-à-dire un art de s'arranger avec des principes interne à son activité, et notamment à la récalcitrance, à la résistance de la matière. L'ingénieur, c'est pas, il travaille pas sur des idées, il travaille sur des matériaux, et matériaux, ils font jamais ce qu'on voudrait qu'ils fassent.
Il faut mourir, mourons, c'est notre faute. Courbons la tête et croisons-nous les bras. Notre salaire et la vie, on nous l'ôte. Nous n'avons plus le droit de vivre ici-bas. Allons-nous-en, mourons de bonne grâce. Nous gênons ceux qui peuvent se nourrir. À ce banquet, nous n'avons pas de place. Il faut mourir, frère, il faut mourir. Il faut mourir, plus de travail au monde. Quoi l'atelier, la machine à vapeur? Les champs, la ville et le soleil et l'onde sont arrêtés, l'argent vient d'avoir peur. L'entraille chaume, la baisse ou la hausse, glace la veine où le sang veut courir. Sans un outil pour creuser notre fosse. Il faut mourir, sœur, il faut mourir. Il faut mourir, mais les blés sont superbes. Il faut mourir, mais le raisin mûrit. Il faut mourir, mais l'insecte des herbes trouble le gîte et le grain qui nourrit. Le ciel s'étend sur toute créature. En est-il donc qui naissent pour souffrir? Sous les scellés, qui donc tient la nature? Il faut mourir, frère, il faut mourir. Le désespoir a vidé la mamelle. Ne tête plus, meurs petit citoyen. Ton père eut tort, ta mère est criminelle. On fait pas d'enfants quand on a rien. La fièvre gagne, le faubourg s'irrite. Venez fusil, canon, venez guérir. La mort de faim ne va pas assez vite. Il faut mourir, sœur, il faut mourir. Allons misère, à tes rangs, bas les armes. Des pleines rues, on nous achève enfin. Allez venez, pas de cris, pas de larmes. Enfants venez puisque vous avez faim. Tueurs en chef, achevez la campagne. Puisse avec nous d'autres races périr. Nos travailleurs ne léguons pas le bagne. Il faut mourir, frère, il faut mourir. Il faut mourir.
chez nous n'avons pas de place. Sans un outil pour creuser notre fosse. En est-il donc qui naissent pour souffrir? Allons misère, attirant bas les armes. Qu'à pleine rue on nous achève enfin. Allez venez, pas de cris, pas de larmes. Enfin venez puisque vous avez faim. Tueurs en chef, achevez la campagne. Puisse avec nous notre race périr. Vos travailleurs ne léguons pas le bagne. Il faut mourir frère, il faut mourir.
On vient d'écouter « Il faut mourir », c'est un texte d'Eugène Potier et la chanson c'est par les coureurs de remparts. Ça vient de l'album « En cendres » et c'est sous licence CC by NC. On continue avec notre troisième partie d'émission.
De servir de toi pour explorer nos propres bricolages. Donc, on a parlé Médiété Hubris, l'autre couple, on va dire, conceptuel qu'on utilise pour asseoir la low-technicisation, c'est donc de lui faire porter la visée de ce qu'on appelle d'une part la convivialité et d'autre part la soutenabilité. Donc, convivialité, pour faire simple, le concept emprunté quasi directement à Illich. Soutenabilité, qui serait un truc comme, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais une sorte de d'abord ne pas nuire appliqué à l'environnement, c'est-à-dire se poser la question de la nuisance plus tôt ou avant celle du progrès technique et de la croissance. Je ne sais pas si ces deux termes t'inspirent, si tu as envie de nous en dire quelque chose.
Oui, alors là, on est au cœur de questions qu'on se pose à l'UTC. Sur la, comment faire entrer dans nos formations cette préoccupation pour la soutenabilité de l'ingénierie. Bon. Alors, soutenabilité à l'égard de quoi? Voilà toute la question. Je pense que ce terme de soutenabilité est intéressant et on a eu une discussion entre collègues à l'UTC pour savoir si, pour parler de cette dynamique générale au niveau de l'établissement autour des enjeux écologiques, on devait parler de durabilité ou de soutenabilité. Ingénierie durable ou ingénierie soutenable. Et il me semble que la notion de soutenabilité est plus intéressante parce qu'elle a l'avantage d'introduire directement la problématique, à une problématique qui est au cœur de ce livre, à savoir la préoccupation pour les milieux et en particulier pour les valeurs qui les structurent, ou en tout cas par lesquelles ceux qui les peuplent structurent leur vie et leur activité. Ce que je veux dire par là, c'est que dans soutenabilité, alors c'est pas tout à fait un néologisme, hein, c'est un mot qui existait à la Renaissance, je crois, mais enfin bon, qui est pas très employé. En revanche, l'adjectif soutenable, et en particulier insoutenable, voilà, on peut entendre les formes donc adjectivales, et en particulier donc le terme insoutenable, puisque insoutenable renvoie assez directement à des préoccupations d'ordre moral. Ce qui est insoutenable, c'est précisément ce que l'on ne peut pas accepter au regard de certaines valeurs morales. Bon. Non, c'est insoutenable, c'est insupportable. Et donc la notion de soutenabilité, elle renvoie, aux différentes couches qu'on a évoquées antérieurement, différentes couches de l'objet technique et donc de la conception, c'est-à-dire à des problématiques qui appellent des métriques particulières, comme des analyses de cycle de vie, des problématiques d'enjeux en termes écologiques, au sens impact sur les milieux naturels, coûts écologiques des activités extractives, etc. Mais la soutenabilité renvoie aussi à cette question morale qui est de savoir, quand je déploie un dispositif et qu'il va produire ses effets, il va produire ses effets dans des milieux, et ces milieux sont peuplés par des vivants, la question se posant de savoir si ces vivants vont être capables de supporter. Ils vont être capables de soutenir ces dispositifs. La question de la soutenabilité, le fait que ce soit soutenable, amène aussi un autre registre de réflexion, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les dispositifs se soutiennent. Une des conséquences de la critique et du technosolutionnisme et du déterminisme technologique, c'est que, et là aussi c'est un apport très très précieux des sciences sociales, des STS, de l'histoire, c'est qu'une technique ne se soutient pas d'elle-même. D'où l'idée d'un soin des techniques. Une technique, il faut en prendre soin. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut, et tout le développement aujourd'hui de ce qu'on appelle les repair studies, les maintenance studies, autour de la maintenance, de la réparation et de tous les acteurs impliqués qui sont interprétés en termes de soins. Donc, pour qu'une technique déploie ses effets dans le temps, il faut qu'elle se soutienne et qu'elle soit soutenue. Et par quoi ? Et par qui et comment ? Voilà. Donc ça, c'est toute la question aussi que pose, que soulève la question, le mot de soutenabilité. Donc soutenabilité de la technique dans des milieux et pour des vivants qui peuplent ces milieux, qui n'ont à la limite rien demandé à personne et qui pourront éprouver la technique comme insoutenable. Et soutenabilité au sens de tout ce qui doit être fait et qui parfois n'entre pas en ligne de compte dans le processus de conception, mais qui est doit nécessairement être présent pour que la technique se soutienne, ou soit soutenue. Et là, on revient à tout ce qui peut être invisibilisé, comme les petites mains. Je reprends le terme des deux sociologues qui ont fait paraître cet ouvrage récemment, Le soin des choses, hein, c'est tout récent. Ça fait suite à un travail de longue haleine sur cette question du soin des choses. Donc les petites mains qui sont invisibles, mais qui sont indispensables pour que ça fonctionne. Ou les petites mains des plateformes numériques, Mechanical Turk, on connaît bien le sujet, tout ce qui est invisibilisé, qui n'est pas intégré dans le logiciel, dans le processus de conception, mais qui fait que ça se soutient.
Alors, pour terminer cette dernière partie, je te propose qu'on aborde trois derniers points sur la piste méthodo qu'on a, pareil, esquissé autour de la low-technicisation. Il y a l'idée de s'appuyer sur trois axes complémentaires. Et une des hypothèses, c'est qu'il faut qu'on les mobilise en même temps dans un contexte de conception, donc de design, peut-être pour reprendre tes mots. Et ces trois points, on les a appelés optimisation, imagination en relation avec les modes de vie et alerte suite à nos émissions, on pourrait parler de visibilisation peut-être au niveau politique. Il me semble que la plupart du temps dans les méthodes, y compris orientées soutenabilité aujourd'hui, encore une fois a fortiori dans le domaine du numérique, il y a surtout l'axe optimisation. Et je pense que c'est parce que ça reste compatible avec une certaine forme de solutionnisme, de la ligne croissance-progrès. En quelque sorte, on n'a pas besoin de remettre fondamentalement en cause où on va. Mais il suffit d'améliorer, d'optimiser un peu. C'est typiquement l'exemple que je pense que pose la voiture électrique. Alors à l'inverse, de l'autre côté, dans les milieux militants, il peut y avoir un rejet de toute forme, on l'a dit un petit peu, un rejet technique assez fort, et donc de la logique même d'optimisation, qui nous amène peut-être à des situations paradoxales où effectivement, on pourrait faire... perdre des gains, pardon pour cette forme-là. Donc peut-être sur ce premier point d'optimisation, avant de parler imagination et alerte visibilisation, mais si tu veux mélanger, tu peux. Est-ce que tu as quelques pistes, quelques points, peut-être, je sais pas, à travers les exemples que tu prends, quand tu invoques rapidement Stigler et Montagny et ou le roi Gourand, mais est-ce que tu as des pistes qui nous permettent de conserver cette logique d'optimisation sans qu'elle nous enferme seulement, en quelque sorte, dans de l'optimisation, quoi?
Oui, je crois que ça découle, merci de ta question, parce qu'elle découle de ce qu'on disait précédemment, à savoir optimisation, mais optimisation de quoi ? S'il s'agit d'optimiser, selon l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, ou la dernière fois, un foie pour le rendre tolérant au gin, on optimise, mais en fait on produit un très mauvais instrument de vie. Donc s'il s'agit d'optimiser un instrument de vie, en le contextualisant, là on est sur un autre type de question. Je tiens à signaler que Simondon lui-même avait mis en avant, et de manière positive, le concept d'optimisation pour penser la technique. Et Simondon justifiait ce point de vue sur l'optimisation en contrepoint d'un autre point de vue, ou en alternative, disons, à un autre point de vue qui est celui de la catégorisation. Simondon considérait comme totalement stérile les démarches consistant à classer les êtres, et notamment les techniques, dans des catégories, des classes figées, et notamment marquées sur le plan des valeurs, de bonnes et de mauvaises techniques. Il y aurait de bonnes et de mauvaises techniques, de bons et de mauvais êtres. Bon. Or non, dit Simondon, il y a des êtres qu'on peut toujours chercher à, il emploie le terme, optimiser. Ce qui est une attitude qui est davantage de générosité à l'égard des êtres, et notamment techniques, puisque finalement, rejeter comme mauvaise technique un certain type de technique, finalement consiste à écarter les problèmes et à finalement se dédouaner. Donc non, il n'y a pas de bonne et de mauvaise technique, il y a, un effort d'optimisation. Alors, un effort d'optimisation qui, bien sûr, ne peut toujours basculer dans le technosolutionnisme que tu évoquais précédemment. Et là est le danger. C'est-à-dire que si optimiser, ça veut dire finalement enfermer le travail de conception dans un effort pour ajuster des pièces, enfin en tout cas pour améliorer soit des procédés, soit des dispositifs au regard de critères exclusifs comme celui du rendement, de la performance, évidemment, on est dans du technosolutionnisme. Mais optimiser, ça peut vouloir dire tout à fait autre chose. Et donc, c'est un terme qui en lui-même, finalement, reste assez ouvert. Et je pense qu'il a le mérite, et je trouve que Simondon dit quelque chose de juste, même si, à certains égards, on peut trouver limité cette générosité sans réserve à l'égard des techniques. Il y a peut-être quand même des techniques qui ne sont pas optimisables. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais cette attitude que Simondon appelait de générosité, par principe, me semble-t-il, doit être conservée contre une approche plus catégorique, catégorisante et exclusive.
Et vas-y, Xavier, continue. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, j'ai répondu à la question sur... j'ai tenté de dire mon point de vue sur optimisation, mais... tu avais deux autres termes.
Oui, c'est ça. Donc j'allais effectivement, tu vas voir, c'est très bien organisé, j'allais te renvoyer la main sur ces deux autres termes. Donc le second, c'était effectivement imagination. Je te prends un tout petit exemple, pareil, mais qui va un peu dans ton sens, pareil, dans cette même réunion que j'évoquais avec des collègues informaticiens. Ils parlaient à un moment de l'optimisation typiquement de l'usage d'un aéroport pour améliorer et du coup pouvoir fluidifier la atterrissage, décollage des avions. Donc on voit bien effectivement qu'il y a des gains d'optimisation potentiels. En revanche, si on n'interroge pas les modes de vie, on voit bien que in fine, eh bien, la conséquence elle peut être délétère in fine, puisque la conséquence finale, c'est peut-être d'augmenter le nombre d'avions. On pourrait m'opposer ou de limiter la construction du nombre d'aéroports, donc d'artificialisation des terres, enfin voilà. Mais donc d'où les deux autres points que je propose donc d'articuler peut-être systématiquement. Donc je rappelle rapidement, mais le second sera se forcer à imaginer les modes de vie. Donc là, de la même façon qu'on va optimiser, par exemple, le fonctionnement d'un aéroport, t'es pas du tout obligé de rester sur cet exemple, se poser la question de remettre en cause, ou encore une fois, de discuter les modes de vie. Et puis la question sur un troisième axe, peut-être plus du politique et de la décision de ce qu'on veut faire, et de, à mon avis, qui va avec, en tout cas du point de vue de l'ingénieur, avec une fonction donc, qu'on a appelée d'alerte, mais je pense qu'il renvoie bien à ce qu'on a appelé peut-être visibilisation depuis le début, c'est-à-dire qu'à un moment, prendre un avion et partir encore une fois en vacances ou faire un déplacement court au sein d'un pays, eh bien c'est trimballer tout un tas de choses, d'humains, de temps, d'espace comme on l'a dit, qu'on ne voit pas forcément au moment où on passe le sas d'embarquement. Quoi.
Alors je vais répondre bien sûr à ta question sur l'imagination et qui conduit à la question du politique. Mais je répondrai quand même à ce que tu viens de dire sur le fait que prendre un avion pour partir en vacances, etc., on ne voit pas forcément. En fait, c'est là que je pense qu'il faut être très clair. Si, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Si, moi, je prends, comme nous tous, je pense, je peux prendre l'avion du low cost pour aller passer quelques jours de vacances. Et je sais. C'est pas que je ne sais pas. C'est qu'on est dans une situation de conflit de valeurs. Et comment est-ce qu'on s'arrange avec des conflits de valeurs ? C'est là toute la question. C'est-à-dire, manifestement, aujourd'hui, le curseur, si je peux dire, c'est-à-dire, je sais qu'il y a un conflit de valeurs, je peux pas... ou alors, vraiment, il faut être aveugle pour dire que ça n'existe pas ou pour dire que c'est invisible. Non, on sait très bien que le coût carbone des déplacements en avion, notamment sur des courtes distances, etc. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Mais comment, et ça c'est une question politique, comment déplacer le curseur jusqu'à ce que ça change effectivement des pratiques. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire de façon à ce que dans leur système de valeurs massivement, enfin dans nos systèmes de valeurs individuels massivement, nous ne prenions plus l'avion pour nous déplacer sur de courtes distances. C'est bon. Donc ce n'est plus invisible. Mais on est typiquement dans ce qu'on disait tout à l'heure sur ces conflits de valeurs et avec lesquels on passe notre temps à nous arranger. Je ne sais pas vous, moi je reste consommateur de viande. Je sais très bien qu'il ne faut pas. Je sais très bien qu'il ne faut pas. Il ne faudrait pas. Je reste consommateur de viande. Comment, à titre individuel, je m'arrange? Comment je place mon curseur sur un continuum où on va trouver des valeurs en conflit, etc. Sur l'imagination... Je pense que c'est effectivement une ressource essentielle pour ouvrir les possibles. Contre, là encore, l'approche technosolutionniste qui est une approche fondée sur l'unicité du possible. Hein, le seul possible, c'est une orientation de la conception. Enfin, je schématise sans doute, mais selon des critères qui sont bien établis, etc. Alors, ouvrir les possibles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, me semble-t-il, être capable de faire exister dans le présent par l'imagination technique, ou par des méthodes amenant des scénarios différents, ouvrant des possibles, faire exister dans le présent une capacité à discuter des valeurs conflictuelles. Ce qui me semble, et je, au risque de me répéter, d'annoncer, je pense que ce qui est fondamental, c'est de faire exister dans des arènes dédiées, dans le débat public, des conflits de valeurs. On discutait une fois précédente, lors de la première émission, je crois, de ces conflits de valeurs attachés à la notion même de défendre la vie, qui avait marqué la gestion de la crise Covid. Hein. Le défendre la vie, ça peut paraître une valeur indiscutable, mais quand on analyse les choses d'un peu près, on se rend compte que c'est traversé par des conflits de valeurs. On n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il faut préserver dans la vie, justement. Ce qu'il faut défendre dans la vie, de quelle vie on parle, etc. Donc, des conflits de valeurs, comment les amener à l'expression? L'imagination est une ressource particulièrement féconde, particulièrement intéressante pour cela. Et il y a des méthodologies, depuis longtemps d'ailleurs, des méthodologies qui permettent d'amener dans le présent, par des scénarios, par des jeux, par toutes sortes de dispositifs expérimentaux qui permettent justement discuter des conflits de valeurs. L'imagination, bien sûr, on la pense, et à juste titre, tournée vers le futur, mais ici, il ne s'agit pas d'essayer d'anticiper ce que le monde sera, mais par l'imagination, de faire exister, non pas dans le futur, mais dans le présent, des conflits de valeurs, de manière à pouvoir justement débattre de ces valeurs concurrentes et de décider. Alors, selon quelle procédure décider, ça c'est encore une autre affaire. Mais...
Xavier, merci beaucoup pour toutes ces réflexions. J'avais encore plein de questions à te poser, mais je crois qu'il faut que tu te rendes bientôt à ton cours pour continuer tout ça avec d'autres étudiants qui auront la chance de t'écouter. Donc, merci beaucoup à toi pour cet espace-temps. Audrey, je te laisse la conclusion.
Oui, merci beaucoup Xavier. Alors voilà, écoutez, on termine cette trilogie consacrée à l'ouvrage, je le répète, Du soin dans la technique, publié en début d'année par Xavier Guchet aux éditions ISTE. On conclut cette trilogie, j'ai envie de le faire avec une citation issue de la conclusion pour ressouligner tout l'objectif, la thèse de l'ouvrage à étudier, à lire, bien entendu. Alors je commence cette citation simplement. La question d'un soin dans la technique prend ici toute sa signification. Mettre du soin dans la technique, c'est rendre manifeste les rapports de pouvoir et de domination que la technique configure et matérialise et qui ont été rendus invisibles afin de les renégocier. Je trouve cette citation assez puissante et puis j'ai envie de dire aux étudiants et aux étudiantes ingénieurs de l'UTC et puis d'ailleurs de ne pas désespérer de l'utilité de votre formation face au changement climatique, aux inégalités qui se creusent, etc. Vous êtes bien celles et ceux qui, par votre choix de devenir des ingénieurs, capable de rendre visible justement et de configurer les matérialités techniques de notre environnement. Vous êtes bien celles et ceux qui ont le pouvoir de renégocier aussi les rapports de force bien réels qui s'y ancrent. Voilà pour un petit mot de la fin, Xavier. Merci encore pour ton temps et pour cet ouvrage résolument porteur d'espoir quant à notre pouvoir de faire bouger encore quelques lignes en prenant soin, en mettant du soin dans la technique. Voilà, vous pourrez retrouver... Merci. vous pourrez retrouver cette émission, ces trois émissions sur podcast.picassoft.net. Et on se quitte avec la chanson Apicratie de La Veilleuse. Et ça vient de l'album La Fête Obligatoire. C'est en licence et c'est by NDNC. Bonne journée à toutes et à tous.
Dans le jardin d'Éden, la vie est un grand jeu. Pas de place pour la haine, ni les débats houleux. Tout ce qu'on y entend sont les messages d'espoir. C'est l'éternel printemps, la fête obligatoire. Le bonheur devenu emblème, dégouline encore et encore. Des bouches gonflées comme les œdèmes d'un paradis technicolore. Du flic au fossoyeur, tout le monde le dit. On vit dans le meilleur des mondes aujourd'hui. Libéré de la peur, non violent comme Gandhi. Triomphe du bonheur au pays. Au pays de Candy. Cette jungle, les tigres ont des pattes de velours. Jamais ils ne dénigrent personne dans leur discours. Jamais plus ils ne veulent surveiller et punir. On s'en charge tout seul et avec le sourire. Quand le bonheur retourne sa veste, nous laissant lambeau lessivé. Quand pleurer tout ce qu'il nous reste, se force à positiver contre le mal de cœur, surtout reste bien assis. Demande à ton dealer une dose d'ataraxie. N'écoute pas la douleur, redresse-toi et souris. Enfile tes écouteurs radio. Happy Crassy. Poursuit la quête du plaisir solitaire et docilement répète le mantra des experts. Le bonheur est une niche fiscale ouverte aux riches, aux bien portants. Pour pouvoir décrocher le Graal, faut faire partie des dominants. Achète le bonheur, peu importe son prix. Sois fier d'être un winner, relève. La sortie du flic au fossoyeur, tout le monde le dit. On vit dans le meilleur des mondes aujourd'hui. Libéré de la peur, non violent comme Gandhi. Triomphe du bonheur au pays. Au pays de Candy.